4. On jaillit dans le monde extérieur. Certains d'entre nous tenaient encore leur seau. On se rassembla au sommet de l'escalier qui descendait jusqu'à la route des Galiens. Kamit et Quilly portaient Frid en ahanant sous l'effort. Soudain, j'entendis le fracas métallique du bus trapu du grand intendant, devant lequel courait une douzaine de soldats de la nuit étalés sur toute la largeur de la voie. J'avais cru que le petit véhicule de Kellyn était le dernier moyen de transport motorisé de l'Illimar, mais je me trompais. Un autre véhicule précédait la meute des soldats de la nuit, et contrairement au bus, il ne fonctionnait pas à l'électricité. Il fonçait droit sur nous en bêlant et en pétaradant. Un gigantesque guidon dépassait à l'avant d'un large wagon. 4 roues cerclées de fer arrachaient des étincelles au pavé. Assise sur une chaise surélevée, Red Molly pédalait comme une furie pour décupler l'énergie, quelle que soit sa nature, fournie par le moteur du wagon. Ses genoux énormes montaient et descendaient à toute allure. Elle était penchée sur le guidon tel un motard casse-cou juché sur son engin. On pourrait atteindre la porte de la ville avant les soldats, mais Red Molly allait trop vite. Je vis des poteaux rayés rouge et blanc. Je vis l'enchevêtrement des câbles de tramway tomber sur le sol qui avait failli me faire trébucher. Et je vis le nid de ronces dans lequel j'avais lancé mon sac à dos pour courir un peu plus vite. Je n'avais pas réussi la première fois, et je ne réussirais pas davantage cette fois-ci. Mes camarades non plus. À moins que mon sac à dos soit toujours là.
Je vais me la faire, cette chienne !
Grogna Ayota, poing serré.
On sera deux !
Dit Amit.
Tu peux me croire ?
Non, dis-je. Je pensais à Aloysius, le neveu de Woody, que la mère de Red Molly avait décapité d'un revers de la main.
Attends, aïe ! Je peux !
Je la grippai par l'épaule. Elle ne nous a pas encore vus. Elle regarde droit devant elle. J'ai un truc. Fais-moi confiance. Je me tournai vers les autres.
Vous tous, restez là.
Plié en deux, je dévalai l'escalier. Le wagon motorisé et pétaradant était si près maintenant que je distinguais les traits de Red Molly. Mais elle continuait à regarder droit devant elle, les yeux plissés. Peut-être était-elle myope, s'attendant sans doute à voir notre groupe courir vers la porte de la ville. J'aurais pu l'attaquer par surprise, peut-être, mais soudain, une petite forme humaine vêtue d'un pantalon vert, au fond déchiré, se précipita au milieu de la chaussée en agitant les bras.
« Il est là !»
bria Peterkin en me montrant du doigt. Comment avait-il pu nous voir ? Nous attendait-il ? Je ne l'ai jamais su et je m'en foutais déjà. Cette saleté d'avorton avait le don d'apparaître toujours au plus mauvais moment.
« Il est là ! Juste là !»
Doigt pointé, il sautait sur place, surexcité.
« Tu le vois donc pas, espèce de grosse chienne bigleuse ! Il est juste !»
Sans ralentir une seule seconde, la géante se pencha sur le côté et le frappa au passage. Peterkin s'envola. J'eus le temps d'entrevoir son visage, déformé par l'étonnement et la stupeur, avant que son corps se sépare par le milieu. Le coup de Red Molly avait été si violent qu'il avait littéralement coupé le nain en deux. Ses intestins s'éparpillèrent alors qu'il planait à 6 ou 7 mètres du sol. Une fois de plus, je pensais à Rumpelstiltskin. Impossible de faire autrement. Red Molly affichait un large sourire qui dévoilait des dents taillées en pointe. Dieu merci, il n'avait pas trouvé mon sac à dos. Je m'égratignais les bras en l'extirpant de l'amas de ronces, mais je ne sentais rien. Une des lanières qui fermait le sac coulissa sans peine, l'autre s'entortilla. Je l'arrachai d'un coup sec qui est sorti des boîtes de sardines, un pot de beurre de cacahuète, un bocal de sauce à spaghetti contenant de la nourriture pour chien, un t-shirt, ma brosse à dents, un caleçon. Ayota agrippa mon épaule. Ma petite bande de guerriers armés de seaux d'eau l'avait suivi au pied de l'escalier, malgré mes ordres, mais c'était aussi bien finalement.
« Aïe, prends-les avec toi et courez, tu porteras Frid. Ceux qui ont encore de l'eau formeront ton arrière-garde. » En arrivant à la porte, tu cries « Ouvrez au nom de Léa des Galiens !» Tu t'en souviendras ?«
Ouais !»« Oh, mort !»
braya Red Molly, de sa voix de baryton alimentée par de puissants poumons.
« Courez !»
Ayota fit signe aux autres en agitant son bras épais.
« Suivez-moi ! Magnez-vous !»
La plupart s'élancèrent à sa suite. sauf Amit, qui resta près de moi. Apparemment, il s'était attribué le titre de garde du corps. Je n'avais pas le temps de le faire changer d'avis. Enfin, je trouvai le calibre 22 de Paulet au fond du sac et le sortis d'un geste brusque, en même temps que d'autres boîtes de sardines et un paquet de crackers Graham que je ne me souvenais pas d'avoir emporté. Red Molly s'arrêta à une dizaine de mètres du dépôt du tramway et descendit de son siège surélevé. Un de ses bras était trempé jusqu'au coude du sang de Peterkin. Amit se plaça devant moi, ce qui posait un problème, à moins que j'aie l'intention de lui tirer une balle dans la tête. Je l'écartai. « Dégage, Amit !» Il m'ignora et fonça sur Red Molly en poussant un hurlement de rage. C'était un colosse, mais à côté de la géante, il ne semblait pas plus grand que Peterkin, qui gisait maintenant sur la route un peu plus loin, en deux morceaux. Un court instant, surprise par cette attaque inattendue, elle ne réagit pas. Et Amit en profita tant qu'il le pouvait. Il agrippa une des larges bretelles de la géante et se hissa à la force du poignet. La bouche grande ouverte, il planta ses dents dans le bras de Red Molly, juste au-dessus du coude. Elle poussa un hurlement de douleur, agrippa Amit par sa tignasse de cheveux gras et éloigna cette tête. Elle serra le poing et l'écrasa, non pas sur le visage de son adversaire, mais à travers. Les yeux d'Amit jaillirent de leurs orbites dans deux directions différentes, comme s'il ne voulait pas voir le trou rouge à l'endroit où se trouvaient autrefois son nez et sa bouche. Red Molly le souleva, toujours d'une seule main, et secoua ce colosse comme une vulgaire marionnette. Après quoi, elle le balança en direction du cimetière dans une gerbe de sang provenant de la morsure de son bras. Amit était un type baraqué et intrépide, et pourtant, se débarrasser de lui avait été pour elle un jeu d'enfant. Et elle se tourna vers moi. J'étais assis sur les pavés de la route des Galiens, jambes écartées, et je tenais le pistolet automatique de Paulet à deux mains. Je n'avais pas oublié ce que j'avais ressenti quand le canon de cette arme s'appuyait sur l'arrière de mon crâne. Une fois de plus, je pensais à Rumpelstiltskin et à combien Paulet m'avait rappelé ce nain de conte de fées. « Qu'est-ce que tu me donnes si je trempe ta paille dans l'or ?» Paulet m'aurait tué après avoir mis la main sur les pépites de M. Bodditch, et il m'aurait balancé dans le puits magique caché dans le cabanon au fond du jardin. Mais je me souviens surtout d'avoir prié pour que ce petit pistolet puisse arrêter une géante, de même que la petite pierre de David avait arrêté Goliath. Possible, s'il était bien chargé. Il avait déjà tiré deux fois dans un monde moins magique que celui-ci. Red Molly s'avança vers moi avec un grand sourire. Son bras pissait le sang. Elle s'en fichait, visiblement. L'ultime morsure d'Amit allait peut-être provoquer une infection qui la tuerait, si je n'y parvenais pas.
« Tu n'es pas un prince !» dit-elle de sa voix grondante. « Tu es un microbe !» De plus qu'un microbe, je vais te piétiner et... »
Je tirai. Le pistolet émit un « bang » poli, à peine plus bruyant que la carabine à air comprimé qu'on m'avait offerte pour mes 6 ans. Un petit trou noir apparut au-dessus de son œil droit. Elle se cabra et je tirai de nouveau. Cette fois, la balle pénétra dans sa gorge et son hurlement de douleur provoqua un jet de sang soumis à une telle pression qu'il paraissait solide comme la hampe d'une flèche rouge. Je fis feu de nouveau et cette fois, le trou noir, à peine plus gros que le point qui ponctue une phrase, apparut en haut de son nez. Rien ne l'arrêta. Beugla-t-elle et elle tendit le bras vers moi. Je ne reculais pas. Je n'essayais même pas d'esquiver. Cela m'aurait fait viser de travers et de toute façon, il était trop tard pour fuir. Elle m'aurait rattrapé en quelques enjambées. Mais juste avant que sa main se referme sur ma tête comme elle s'était refermée sur celle d'Amit, je tirais 5 balles coup sur coup. Chacune pénétra dans sa bouche grande ouverte. Les 2 premières, ou les 3 premières, arrachèrent la plupart de ses dents. Dans « La guerre des mondes », nos armes les plus sophistiquées ne parvenaient pas à arrêter les martiens destructeurs, finalement décimés par des germes terrestres. Je pense qu'aucune des balles tirées par le petit pistolet de Paulet ne parvint à tuer Red Molly, ni même les 8 dans leur ensemble, c'est-à-dire toutes celles qui restaient dans le chargeur. Je crois qu'elle avala ses dents et s'étouffa. 5. Si elle avait basculé sur moi, son poids aurait pu me clouer au sol jusqu'à l'arrivée de Kéline et de ses soldats de la nuit, ou même me tuer directement. Elle devait peser dans les 250 kilos minimum. Heureusement, elle tomba à genoux d'abord, en suffoquant, tenant à deux mains sa gorge sanglante, les yeux exorbités et aveugles. Je reculais en rampant sur les fesses, basculais sur le flanc et roulais sur moi-même. Les soldats de la nuit se rapprochaient. Je n'avais aucune chance d'atteindre la porte avant eux, et mon arme était vide. Dans un ultime effort, Red Molly tendit vers moi son bras blessé, aspergeant mes joues et mon front de son sang, avant de basculer face contre terre. Je me relevais. Je pouvais courir, mais à quoi bon ? Mieux valait faire front et mourir de la meilleure des manières. À cet instant, je pensais à mon père, qui espérait encore me voir rentrer à la maison. Avec Lindy Franklin et mon oncle Bob, ils avaient dû inonder toutes les villes entre Sentry et Chicago de photos de moi et de radars. Avez-vous vu ce garçon ou ce chien ? Plus personne ne garderait le passage menant à Empis, et c'était peut-être plus grave que l'affliction d'un père. Pourtant, en voyant approcher les soldats de la nuit, c'était à lui que je pensais. Il avait cessé de boire. Et tout ça pourquoi ? Sa femme était décédée et son fils avait disparu sans laisser de traces. Mais si Ayota pouvait conduire les autres de l'autre côté du mur d'enceinte, où les soldats de la nuit ne pouvaient pas s'aventurer, devinais-je, ils seraient libres. C'était déjà ça.
Approchez, fils de pute !
Criai-je. Je balançai le pistolet, désormais inutile, et écartai les bras. Derrière l'alignement de forme bleue, Kéline avait arrêté son petit bus. Il se contenterait d'assister à ma mise à mort, songeai-je tout d'abord, mais ce n'était pas moi qui le regardais. C'était le ciel. Les soldats de la nuit s'arrêtèrent à leur tour, à 70 ou 80 mètres de moi. Eux aussi levaient les yeux, et une stupéfaction identique se lisait sur les visages humains diaphanes qui recouvraient leurs têtes de mort. La lumière était suffisante, même si les deux lunes poursuivaient leur course incessante derrière les nuages. L'un d'eux, plus bas que les autres, passait au-dessus du mur d'enceinte. Il fonçait en direction de la route des Galiens, des commerces chics et des arches, et du palais au-delà, où les trois flèches de verre vert étincelaient dans les lumières qui entouraient le stade. C'était un nuage de monarques, le genre de regroupement qu'on appelle un kaléidoscope. Ils me survolèrent sans s'arrêter. C'étaient les soldats de la nuit qu'ils visaient. Ils s'arrêtèrent au-dessus d'eux, tournèrent en rond et attaquèrent en piqué tous ensemble. Les soldats de la nuit levèrent les bras, comme l'avait fait, disait-on, Flight Killer après son coup d'état. Mais ils ne possédaient pas son pouvoir et les papillons ne périrent pas. Exception faite des premiers qui heurtèrent les auras à haute tension, provoquant des éclairs bleus aveuglants. Comme si une foule d'enfants invisibles agitait des cierges magiques le jour de la fête nationale. Des centaines de papillons s'embrasèrent, mais des milliers d'autres les suivirent, étouffant les auras mortelles ou provoquant des courts-circuits fatals. Le nuage parut se solidifier à mesure qu'il engloutissait les soldats de la nuit. Mais pas le grand intendant Kéline. Son petit bus électrique effectua un demi-tour serré pour regagner rapidement le palais. Quelques monarques se lancèrent à sa poursuite, mais il allait trop vite pour eux, et de toute façon, le toit de son véhicule aurait protégé ce salopard. En revanche, les soldats qui nous avaient pourchassés étaient morts. Tous. Là où ils se trouvaient un peu plus tôt, les seuls mouvements encore perceptibles étaient des battements d'ailes fragiles. Je vis une main décharnée se lever, puis retomber dans la masse orange et rouge qui la recouvrait. Je courus vers la porte. Elle était ouverte. Mon groupe de prisonniers était sorti de la ville, mais quelque chose arrivait à toute allure. Une forme noire au ras du sol qui aboyait furieusement. J'avais cru que mon seul désir était de quitter cette cité hantée, mais je m'apercevais maintenant qu'il y avait une chose que je désirais encore plus. Je repensais à Dora quand elle avait aperçu ma chienne. Elle l'avait appelée, tant bien que mal, de sa voix brisée. J'avais la voix brisée, moi aussi, non pas à cause de quelques malédictions, mais par les sanglots. Je tombai à genoux et tendis les bras.
Radar ! Radar ! Radar !
Elle me percuta et me fit tomber à la renverse, en gémissant et en léchant mon visage à grands coups de langue. Je l'étreignis de toutes mes forces. Et je pleurais. Je ne pouvais plus m'arrêter. Ce n'était pas digne d'un prince, je suppose, mais comme vous l'avez peut-être déjà deviné, nous ne sommes pas dans ce genre de conte de fées. 6. Une voix tonitruante que je connaissais bien brisa nos joyeuses retrouvailles.
« Sarli ! Prince Sarli, sors de là, bordel ! Qu'on puisse fermer la porte ! Rejoins-nous, Sarli !»
« Ok, ok, » pensais-je en me relevant. « Et magne-toi la rondelle, prince Sarli !» Radar dansait autour de moi en aboyant. Je courus vers la porte. Claudia se tenait juste de l'autre côté et elle n'était pas seule. Woody l'accompagnait. Et entre eux, à cheval sur Falada, j'aperçus Léa. Et derrière eux, d'autres personnes, une foule que je n'arrivais pas à discerner. Claudia refusait de mettre un pied à l'intérieur de Lilimar, mais dès que je franchis la porte, elle m'agrippa et me serra contre elle, si fort que je sentis ma colonne vertébrale craquer.
« Où est-il ?» demanda Woody. « J'entends la chienne, mais où ?»«
Ici !» dis-je. « Juste là !»
Cette fois, l'étreinte vint de moi. Quand je le relâchai, Woody porta sa paume à son front et mit un genou à terre.
« Mon prince, c'était vous dès le début, et vous êtes venu, comme le racontaient les vieilles histoires. »«
Debout, » dis-je, avec les yeux mouillés de larmes qui continuaient à couler, mêlés à la morve que j'essuyais d'un revers de main et couvert de sang. Jamais je ne m'étais senti moins noble.
« Je vous en prie, Woody, relevez-vous, debout. »
Il obéit. Je me retournai vers mon groupe qui nous regardait avec stupeur et émerveillement. Iris et Jaya s'étreignaient. Ayota portait toujours Fride dans ses bras. À l'évidence, certains de mes amis, peut-être même tous, savaient exactement qui étaient ces trois personnes. Pas uniquement des êtres saints, mais des êtres saints au sang pur. Les membres de la famille royale d'Empis exilés, et à l'exception peut-être de Yolande la Folle et de Burton l'Ermite, les derniers représentants de la lignée des Galiens. Derrière les évadés du cachot se massait une bonne soixantaine de personnes grises. Certaines brandissaient des torches, d'autres des lanternes semblables à celles que Percy avait déposées à mon intention. Je remarquai quelqu'un que je connaissais. Radar s'était déjà élancé vers elle. Je lui emboîtais le pas, à peine conscient que toutes ces personnes difformes, victimes de la malédiction d'Elden ou de la créature qu'il avait manipulée comme une marionnette, se mettaient à genoux autour de moi, la paume plaquée sur le front. Dora essaya, elle aussi, de s'agenouiller. Pas question de la laisser faire. Je l'étreignis, embrassai ses joues grises et le coin de sa bouche en croissant de lune. Je la ramenai auprès de Woody, de Claudia et de Léa.
Ferme-toi au nom de Léa des Galiens !
Brailla Claudia. La porte se mit à coulisser lentement. Le mécanisme gémissait comme une créature qui souffre. C'est alors que je vis une silhouette énorme parcourir à grandes enjambées l'artère centrale. Des nuées de monarques voltigeaient au-dessus et autour d'elle, certains n'hésitant pas à se poser sur ses larges épaules et sa tête monolithique. Mais cette silhouette massive, n'étant pas celle d'un soldat de la nuit, il l'ignorait. Au moment où la lourde porte atteignait le milieu de son rail invisible, l'apparition poussa un gémissement de chagrin, si puissant, si terrible, que tout le monde, à l'exception de Claudia, se boucha les oreilles.
« Molly !»
hurla Anna.
« Oh, ma Molly ! Oh, ma chérie !
Pourquoi es-tu aussi immobile ?
Elle se pencha au-dessus de sa fille morte, puis se redressa. On était nombreux devant la porte qui continuait à se fermer, mais c'était moi qu'elle regardait.
Reviens ici !
Elle leva et secoua ses poings aussi gros que des rochers.
Reviens, espèce de lâche ! Que je te tue pour ce que tu as fait à ma fille chérie !
La porte se referma avec fracas, masquant la vision de la mère dévastée de Reine Molly. 7. Je levai les yeux vers Léa. Pas de robe bleue ce soir-là, pas de tablier blanc. Elle portait un pantalon noir glissé dans des cuissardes en cuir et un gilet bleu matelassé orné d'un monarque, les armoiries royales des Galiens sur le côté gauche, au-dessus du cœur. Une large ceinture entourait sa taille. Un poignard pendait sur sa hanche. De l'autre côté, un fourreau contenait une courte épée dotée d'une poignée en or.
« Hello, Léa !»
dis-je, intimidé soudain.
« Je suis très content de vous revoir !»
Elle me tourna le dos comme si elle ne m'avait pas entendu. Peut-être était-elle aussi sourde que Claudia. Son visage, son bouche, restaient de marbre.